95.7 Kick, Saguenay. Le show du matin avec Dominique Fortin, Marc Diquet, Martin Thomas Côté et Tania Clouston.
Bon, on en a jasé avec Bernard Drinville, mais ce qui retient l'attention aujourd'hui de bien du monde, c'est l'Association des libraires du Québec qui a retiré une publication de François Legault qui faisait une suggestion de livres. Alors, on demande à des gens connus de suggérer des livres. On fait des capsules vidéo, on fait des publications. Il y a tellement eu de commentaires négatifs sur François Legault qu'au lieu de prendre leur chenol entre les deux mains et dire « Ben, gars, on poursuit pareil », ils ont décidé qu'ils reculaient et qu'ils retiraient la publication.
Je suis tellement en maudit, là. J'ai pas de mots pour l'exprimer. Tu le sais, je fais un podcast sur l'univers de la bande dessinée avec de mes chums. C'est drôle, hein, dans l'univers de la bande dessinée, c'est un mépris qu'on a régulièrement, là, que ce n'est pas de la bonne lecture, que ce n'est pas de la vraie lecture. Puis que... C'est un monde d'intellectuels, des fois, un peu, là... un peu comme les gens qui trippent sur la musique émergente. Là. Quand ça devient trop populaire, là, c'est plus bon. Là. C'est
bon,
plus
bon, le cinéma, c'est pareil.
C'est même, cette espèce d'élitisme là, dégueulasse. Et je me bats tous les jours avec mes jeunes pour les faire lire, pour leur dire qu'il y a de la lecture pour tout le monde, pour tous les goûts. Et le premier ministre se sert de sa visibilité, de sa fonction de chef de l'État québécois pour promouvoir la lecture. François Legault, qui est un gars...
Qui est un produit de la culture. Hein, c'est...
Qui est un gars bien ordinaire. Ah, aussi, oui. Là, il parle aux Québécois, puis on le comprend. Là, c'est pas un grand intellectuel de ce monde. Il nous propose des livres, et parce que là-dedans, il y a un livre d'un gars que vous aimez pas, puis je comprends que vous l'aimiez pas parce qu'il est pas d'accord avec vous autres. Vous censurez le PM?
Ça n'a aucun sens.
Moi, le matin, là, ça m'a choqué. Tu peux même pas savoir.
Ah, on sait bien, hein, la droite économique, là, François Legault tripe sur Mathieu Bock-Côté. On comprend où s'en va la CAQ. Écoute, ils ont mis Mathieu Bock-Côté quasiment dans la même catégorie que n'importe quel livre du genre le Mein Kampf.
Ou... Ah ouais, je pense que s'il avait suggéré Mein Kampf d'Adolf Hitler, il n'y aurait pas eu autant de réactions.
On va en parler avec le principal intéressé qui est en ligne, Mathieu Bock-Côté. Bon matin.
Bonjour.
C'est incroyable, hein? C'est se retrouver dans la colonne des indésirables à ce point-là.
Ben, ce qui est amusant, paradoxalement, c'est que dans cet ouvrage, L'Empire du politiquement correct, je m'intéresse aux nouvelles méthodes, aux nouveaux mécanismes qui commandent la censure aujourd'hui. Comment on cherche à infréquentabiliser, c'est-à-dire rendre infréquentables certaines personnes, certaines idées. Comment fonctionne aujourd'hui dans l'espace public, la distinction entre les fréquentables et les infréquentables, les modérés, les radicaux, les honorables, les extrémistes, et ainsi de suite. Donc, je cherche à comprendre la logique qui commande à la fois dans l'université, dans les médias, dans la politique aussi, ces nouveaux mécanismes de censure, comment ce qu'on appelle, en guillemets, le conservatisme est souvent présenté, non plus comme une philosophie contestable, certes, mais légitime, mais comme un discours haineux qu'il faudrait combattre à tout prix. Donc, je m'intéresse à ça, et là, c'est les événements tendent à confirmer, alors que mon livre sort en version poche, je pense, aujourd'hui, il est sorti hier ou avant-hier, eh bien, tendent à confirmer mon diagnostic, avec une petite nuance sur votre présentation,
oui.
C'est que les commentaires, à ce que j'en sais, n'étaient pas si nombreux, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire, il y a eu quelques militants très zélés, très enragés, pour ce que j'en comprends, là, sous toute réserve. Donc, c'était pas des tonnes et des tonnes d'indignés. C'est quelques militants fanatisés qui brandissent l'étendard woke en disant « Oh là là, vous heurtez ma sensibilité avec ça ». Et là, donc, l'Association des libraires a décidé de capituler devant la pression d'un petit groupe fanatisé et non pas devant une masse indignée. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire, de tout petits groupes aujourd'hui, de toute petite mouvance, mais qui verse dans le fanatisme le plus décomplexé, est capable aujourd'hui de pousser à la censure. Puis un autre élément qu'il vaut la peine de mentionner, vous me pardonnerez de le dire, c'est qu'au-delà de ma petite personne, ils le disent, François Legault, on dit, ne doit pas être là parce qu'il n'adhère pas à la théorie du racisme systémique. Donc on comprend que pour ces militants, si vous adhérez pas à la théorie du racisme systémique, vous ne devez pas avoir droit à la parole publique, même si vous êtes le premier ministre. Alors là, on est quand même, et c'est d'une discourtoisie absolue, c'est-à-dire on invite le premier ministre à faire ses suggestions de lecture, il les fait, on n'aime pas les suggestions de lecture, on retire la liste. Je veux dire, en matière de manque de savoir-vivre, c'est difficile d'atteindre de tels niveaux.
Et c'est spécial parce que dans le monde du livre, écoute, c'est pas tous des millionnaires, les auteurs, là, de savoir qu'un premier ministre a lu votre livre. J'imagine que, premièrement, ça fait une fleur de savoir que le PM a pris le temps de lire votre livre, puis veux pas, bon, vous avez d'autres occupations, vous avez d'autres moyens, mais tu sais, je pense à un auteur que son livre était dans la liste de suggestions, oui. Pour qui ça peut donner un boost de vente, là, on veut qu'ils vivent de leur art, là.
Vous avez raison à 100%, moi, c'est une chose qui m'a frappé, Il y a mon nom sur cette liste-là, mais il y en a surtout le vôtre. Le premier ministre est un lecteur qui multiplie les livres de toute tendance, on le comprend, de différents styles, des essais, des romans. Bon. Et là, les 9 autres personnes, disparues, comme ça, hein, comme si c'était des dommages collatéraux. Et de ce point de vue, l'absence de jugement de l'Association des libraires est exceptionnelle, parce qu'ils décident finalement de repousser dans les marges, de condamner à l'invisibilité toute une série d'auteurs qui décident de finalement payer le prix d'avoir été en ma compagnie. C'est ce qu'on pourrait appeler chercher à rendre radioactif quelqu'un. Et je m'en désole pour eux. Je m'en désole plus largement pour notre rapport au débat public. Parce que le pari de la démocratie, c'est de dire on ne sera pas d'accord sur les objectifs, mais on va être d'accord sur une chose, c'est qu'on discute librement des différentes thèses sans qu'il n'y ait de tabou dans l'espace public. Mais ce pari-là est en train de tomber.
Je vous pose la question. Là. La pandémie est en train d'accélérer à peu près tout. Là. Donc, ça accélère la médecine, ça accélère également l'intolérance. Est-ce que ça va aussi accélérer l'intolérance à l'intolérance?
Ouais, en fait, c'est la notion d'intolérance à l'intolérance, c'est une notion que j'ai toujours pris avec des pincettes, entre guillemets, parce que, premièrement, j'aimerais qu'on me dise c'est quoi l'intolérance. Hein? C'est-à-dire, on dit souvent qu'il faut lutter contre l'intolérance. OK, je suis d'accord, mais l'intolérance à quoi? Au gluten, au lactose, au conservatisme, au progressisme? L'intolérance, c'est une notion un peu vague. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis un bon moment déjà, la tentation de la censure, la tentation du bannissement est présente dans l'espace public. Je vous donne un exemple qui m'est lié, vous me pardonnerez si c'est pas ça, les circonstances en veulent ainsi. Quand j'ai sorti ce livre l'an passé, alors j'ai d'abord sorti en France et j'en avais fait la promo pendant 1 mois, 2 mois là-bas. Je viens ici, je reviens chez moi pour le sortir. Je fais un lancement qui se passe très bien, mais il y a aussi une conférence qui est prévue dans une autre librairie à Montréal. Et là, des groupes groupe d'extrême gauche disent « Nous n'acceptons pas que cette conférence se tienne dans ce lieu qui est une librairie de qualité. Cet auteur et ta-ta-ta-ta-ta. » Donc, ils ont menacé, je pense, de lancer des ballons de peinture sur les livres, de saccager les lieux, de faire du vandalisme si la librairie me recevait. La librairie prend peur et décide d'annuler l'événement. Une autre librairie va décider de le faire finalement. Mais quoi qu'il en soit, donc, on n'était pas en pandémie en mai ou en juin 2019. Puis déjà ça, on le voyait. On n'était pas en pandémie à Evergreen, si je peux me permettre, le campus américain dans l'Oregon, si je ne me trompe pas, où on a vu véritablement de nouvelles chasses aux sorcières contre un professeur qui critiquait certains aspects d'une certaine vision de l'antiracisme. On n'était pas en pandémie quand on a décidé, et puis là, je pourrais vous dire, de faire ces annulations de conférences dans des universités américaines ou en Europe même, on le voit. Donc, je pense que la pandémie est un accélérateur de folie, probablement, mais tous ces phénomènes-là lui sont antérieurs, hélas.
Oui, mais jusqu'à quel point la société va tolérer cette intolérance à tout, là? Tu sais, à un moment donné, la majorité qui n'est pas représentée par tous ces groupes de pression-là, à force de se faire enfoncer les choses dans la gorge, va bien finir par se tanner.
Oui, bien ça, c'est la vision optimiste des choses. Hein. C'est-à-dire, je crois que la majorité se tanne, vous avez raison. Je le pense vraiment. C'est quoi le... l'arme en tant que telle, entre guillemets, l'instrument dans les mains de la majorité, ce sont les élections. Et on peut voir, moi je le crois, que dans la victoire de François Legault en 2018, il y avait aussi une exaspération contre cette espèce de politiquement correct. C'est un élément, on s'entend, il y en avait plusieurs. Mais il y avait une forme de bon sens chez Legault, puis je pense qu'aujourd'hui encore, qu'on apprécie ou non sa gestion de la pandémie, son rapport à la question linguistique, le fait qu'il va assez loin ou non sa question nationale, au-delà de tout ça, je pense qu'une des forces de Legault, dans l'opinion, c'est qu'il ne capitule pas, il ne contre-attaque pas nécessairement toujours sur le mode... Legault a une résistance tranquille à ces idéologies-là, mais il ne capitule pas devant les procès, devant les codes du politiquement correct. On le voit depuis quelques mois, il y a une campagne de harcèlement médiatique pour l'obliger à se soumettre à la théorie du racisme systémique. Et il ne cède pas. Et bien ça radicalise, ça stigmatise ceux qui voient cela comme une forme de vérité religieuse révélée. Donc, je pense qu'on est dans un espèce d'environnement toxique, mais donc, les gens votent, ils expriment leur désaccord, mais en dernière instance, le pouvoir culturel, le pouvoir universitaire, une bonne partie du pouvoir médiatique est sous le contrôle de cette idéologie-là. C'est pas une conspiration ou quoi que ce soit, c'est simplement un phénomène d'imprégnation, on pourrait dire, d'influence idéologique. Eh bien, ça, c'est le problème. C'est-à-dire là, on a beau voter pour qui on veut, en dernière instance, dans les universités, par exemple, c'est cette culture-là qui est dominante.
Mais sont où les autres comme vous, là? Je veux dire, vous êtes pas le seul vous êtes un produit des universités québécoises. Ils sont où les autres comme vous?
Je ne crois pas en être la figure la plus représentative, si je peux me permettre cet euphémisme. Alors, il y a par ailleurs des gens de grande valeur dans le milieu intellectuel québécois. Souvent, vous noterez que soit ils ne réussissent pas à faire carrière à l'université parce que l'université est assez bloquée, soit ils vont se retrouver dans ces marges, dans des institutions un peu parallèles, parce que l'université est un système assez bloqué. Pour le reste, si on veut prendre la peine de lire ces intellectuels de référence de qualité. Alors là, je vais faire quelque chose de terrible. Je vais dire du bien de plusieurs d'entre eux en espérant ne pas leur faire du mal en disant du bien. Mais si quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du Québec peut lire Charles-Philippe Courtois ou peut lire Éric Bédard, il va avoir des historiens remarquables. Quelqu'un qui s'intéresse à la sociologie du Québec peut lire Jacques Beauchemin, Joseph-Yvon Thériault. Je préfère une longue liste, Joël Quérin, je préfère une longue liste des intellectuels de grande qualité, Jacques Houle, Frédéric Lacroix, qui font une réflexion remarquable sur le Québec. Peut-être n'ont-ils pas toute la place qu'ils mériteraient dans l'espace public, mais ce qui est certain, c'est que devant la censure, moi, j'ai une politique qui est très simple, c'est tenir. Tenir, se tenir droit, tenir tête, et puis ne pas laisser aux cracheurs d'insultes le pouvoir de dire ce qui peut être dit, ne peut pas être dit dans l'espace public. C'est pas toujours agréable, il y a des mauvaises journées, il y a des journées de censure. Bonjour, bien, ce sera la journée. Mais je pense que se tenir debout, se tenir droit, dernière instance, c'est la seule chose à faire devant ces gens-là, ne pas capituler devant eux.
Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue, hein, ouais. À la base, là, faut-il le rappeler.
Je veux juste préciser qu'il y a l'Association des libraires. Par contre, Renaud Bré et Archambault n'en font pas partie.
Oui.
Hein, c'est beaucoup trop...
Beaucoup trop huppé.
Beaucoup trop public pour l'Association des libraires.
Je peux
si
comprendre.
Si t'es pas dans un fond de garde-robe, puis qu'il n'y a pas d'étoiles d'araignée, puis que ça sent pas le patchouli, t'es pas un vrai libraire.
Mais il a exprimé quelque chose d'intéressant. Tu sais, sur François Legault, je pense que c'est ce qui explique encore sa grande popularité, malgré ce que vous pensiez ou pas.
C'est sa recette du succès.
La gestion de la pandémie, c'est que... Lui, il parle à la majorité quand il parle. Il parle toujours à la majorité.
Et c'était simple. Hein,
et c'est le seul qui nous parle encore en passant.
Le génie de François Legault, là... Parce que François Legault n'a pas toujours été comme ça, là.
Non.
Le génie de François Legault, c'est tu sais quoi? C'est d'avoir allumé que Philippe Couillard représentait tout ce que les Québécois détestaient.
Ben oui.
D'avoir pris ce gars-là puis de dire, je vais faire...
Le contraire.
Tout le contraire de ce que ce gars-là a fait.
Voilà.
Parce que Philippe Couillard, en aptitude sociale, là, puis en...
C'est zéro
open bar.
Il
connecte avec personne, là.
Puis le PQ et Québec solidaire sont tournés vers les minorités. Beaucoup, 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 beaucoup.
Alors, Legault s'est dit, c'est quoi que les Québécois veulent entendre?
Ben, c'est qui les Québécois? Puis, qu'est-ce qu'ils veulent entendre qu'ils n'entendent plus?
C'est juste sa recette.
Et tantôt, je fais le parallèle avec ça depuis ce matin, même si c'est pas un parallèle extraordinaire avec la finale d'Occupation double hier. Mais la télé est en perte de vitesse au Québec, et peut-être parce qu'elle ne parle plus à la majorité aussi. Hein. Peut-être qu'elle devrait regarder un peu le premier ministre puis se dire, ouais, là, je peux-tu rejoindre la majorité puis arrêter de leur enfoncer les messages sociaux dans la gorge?
C'est dommage parce que tous les messages sociaux dont on parle là,
sont importants.
Puis il y a des choses à faire, puis il y a des améliorations à apporter, puis il y a des discussions à avoir.
Ils sont importants.
Mais
c'est parce que quand tu enfonces et tu donnes une surdose de messages sociaux, à un moment donné, le monde se tanne. Puis je dis, gars, je vais m'abonner à Netflix. Et je suis pas sûr que c'est ce que tu veux. 9h05.
On revient tout de suite après la pause. 95.7 Saguenay, le show du matin.